France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Je le dis sans aucune modestie. J'ai facilité la vie des gens, disait Roland Moreno, de la carte des téléphones mobiles à la carte vitale, en passant par la carte bleue. Mais je ne mérite pas pour autant le prix Nobel. La puce n'est pas une découverte, mais une invention. L'idée de cette invention majeure, Moreno prétendait l'avoir eue en dormant et se décrivait lui-même comme un gros paresseux distrait, une sorte de professeur Nimbus. Disparu en 2012, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Théorie du bordel ambiant », une suite joyeuse de réflexions sur le monde, la vie, les choses, sur tout et rien. Pour sa parution, il était en 91 l'invité de France Culture dans « Photoportrait ».
Photoportrait, la galerie des contemporains. Roland Moreno, inventeur de la carte à puce.
Comment vous voyez-vous ?
Comme un homme curieux et qui aime rire, voilà. Si je dois utiliser trois mots, c'est ça. C'est-à-dire que je suis plus curieux que les autres, curieux de curiosité, hein, je suis pas curieux au sens bizarre. Et par contre, j'ai une caractéristique que je crois très peu de gens ont. Je suis boulimique du spectacle de la vie, que je trouve complètement inépuisable. C'est d'ailleurs le titre d'un de mes chapitres, qui aurait pu être beaucoup plus long, mais qui n'a pas été tant que ça. Sinon, je partais à perte de vue. Je dévore les journaux, la télévision, la radio, je stocke, je garde. Et pourquoi est-ce que je stocke et je garde ? Et bien parce que n'importe quoi sur quoi je tombe, me provoque indignation, hilarité, étonnement, et j'ai toujours envie d'en faire profiter les autres. Donc, je sais pas si on peut recouvrir tout ça par un seul mot, mais voilà, je crois que le point commun, c'est quand même la rigolade, hein, parce que l'indignation souvent dégénère en rigolade. Je suis censé être bizarre, être inhabituel. Bon, d'abord, des inventeurs, il n'y en a plus. C'est plus l'époque. Il paraît que, enfin, faut que je dise en toute modestie, il paraît que je serai le dernier. Hein, c'est-à-dire le dernier à avoir inventé quelque chose d'important dans la vie, comme par exemple ces cartes qu'on a tous dans les poches. Maintenant, ces inventions ne viennent plus que de grands groupes industriels. Le Walkman n'a pas été inventé par un monsieur, mais par une grande société, etc., etc. Hein. La télécommande des téléviseurs, qui est un objet dominant d'une pratique culturelle majeure, hein, la télévision, n'a pas été inventée par quelqu'un, et ainsi de suite. Donc déjà, l'inventeur, c'est quelqu'un d'anormal. Non, déjà, je suis curieux. Puis, je suis curieux parce que j'ai réussi cette invention, alors qu'elle avait tout pour échouer. J'ai traversé le désert pendant 10 ans, ce qui est inhabituel. Normalement, les inventeurs jettent l'éponge avant et puis retournent faire bouillir une marmite quelque part et donc abandonnent leur invention. Moi, j'ai eu plein de chance et donc, grâce à cette chance, j'ai pu tenir. Hein. J'incarne pas le modernisme. Au sens de... Bon, je suis pas spécialement bien dans cette époque. Mais, comment dire, moi j'essaie de mener les choses au bout, et ça se faisait effectivement aux autres époques. Les grands scientifiques ou les précurseurs étaient en général des aristocrates qui avaient de l'argent, qui finançaient leurs propres travaux. Ce n'est plus le cas maintenant, il n'y a plus évidemment ce genre d'aristocratie. Et puis pour financer ces travaux, c'est très cher. Mais Par contre, s'il y a vraiment une chose dont j'ai horreur, c'est de la velléité et des velléitaires. Donc quand je me lance dans quelque chose, et je me lance pas souvent, je me donne vraiment presque tout le temps de le terminer, de le boucler. Sinon, je me sens ridicule vis-à-vis de moi-même d'avoir fanfaronné, d'avoir dit partout « Tiens, j'ai une idée super, ça pourrait faire ci, ça pourrait... » Bon, j'en ai quelques-unes, j'ai quelques cadavres dans mes placards et qui me gênent beaucoup. Donc, pareil, il hein, y a un an et demi, lorsque Pierre Belfond m'a demandé ce livre, qui s'appelait déjà « Théorie du bordel ambiant », il avait déjà un titre, et que j'ai accepté, j'ai vachement eu peur après de ne pas être capable de tenir la distance. Hein. Écrire les premières pages, c'est une chose, le finir et tout, ça, c'en est une autre. Et même, ce que j'ai découvert, et ce qui n'a pas été spécialement facile à assurer, c'est qu'une fois qu'il était imprimé chez les libraires, il fallait encore le suivre, parce qu'il ne suffit pas que le livre existe matériellement, il faut aussi qu'il existe dans les têtes, donc il faut se défoncer pour le faire connaître, etc. Enfin bon, bref, donc j'essaye d'aller jusqu'au bout des parcours que j'entreprends. J'en entreprends pas beaucoup, j'en ai peut-être, je sais pas quoi, 5, mais... Voilà, c'est sans doute, tiens, voilà, un autre trait, on a parlé tout à l'heure de comment je me voyais, voilà, un autre trait caractéristique, c'est que j'ai une peur panique du ridicule.
Est-ce que vous avez des idées fixes, des lubies, ou des idées tout court ?
Des idées fixes, oui, enfin des lubies, des phobies, bon, ma phobie principale, c'est sûr, c'est le mensonge. Et le mensonge donc prend deux formes ma vie quotidienne, c'est la publicité et le communisme. Je suis pas un anticommuniste viscéral, mais simplement cette passion pour le mensonge m'amène à lire et à absorber le maximum de propos. Je dis communiste, hein, c'est un mot simple, ça, on peut dire marxiste, léniniste, etc. Peu importe le distinguo. Tout le monde aura compris. Donc j'adore ça, je me délecte, je m'ébroue dans ça. Enfin, toutes ces formes, plus ou moins chiadées, de mensonges, de perversions. Alors la publicité, bon, il n'y a même pas besoin de chercher. Enfin, je ne suis pas le seul à être phobique de la publicité. Mais vraiment, j'en ai vraiment à dire là-dessus. C'est-à-dire, j'adorerais ouvrir les yeux des gens sur par exemple, le gâchis. De mots, de langage, de saccage du langage que provoque la publicité, et leur ouvrir les yeux sur le fait que, par exemple, des tas de publicités ne disent rien et ne peuvent jamais rien dire. Que pourrait donc dire une publicité pour la bière ou pour un parfum, à part que c'est bon ou que ça sent bon? Donc, il y en a plein. Hein. Les compagnies d'assurance ne peuvent rien dire non plus, bien sûr. Des whisky, bon, ils ne peuvent rien dire, rien. Alors, il y a derrière, en arrière-plan de tout ça, des hordes de créatifs dans des agences qui se gobergent avec des formules. J'ai trouvé une baseline, j'ai trouvé un spot, un pack shot, etc. Mais qui sont parfaitement inversibles. Hein, on peut parfaitement prendre le je crois que le mot slogan est très daté, et il faudrait utiliser un mot plus contemporain. Alors, retenons le mot slogan parce que je connais pas l'équivalent moderne. Sont parfaitement inversibles. Hein, on peut prendre le slogan du poids du parfum Samsara et puis l'appliquer au parfum opium ou poison, etc. Bien sûr, il n'y a aucune différence, il ne peut pas y en avoir.
Mais inventeur, c'est pas un métier.
Non, c'est une situation. Une situation, c'est un état, c'est pas un statut social, il n'y a pas une convention collective des inventeurs. Donc, c'est un. Et en plus, on ne peut pas inventer à plein temps. Ça rejoint le propos précédent, c'est-à-dire que pour inventer, enfin, du moins, une invention, c'est juste comme un bébé, c'est Victor Hugo qui dit ça arrive au milieu de la table et ça occupe tout l'espace. Hein. Donc une invention, tant qu'on ne l'a pas accompagnée jusqu'au bout de la rampe, tant qu'elle n'a pas pris son envol, elle ne demande qu'à crever. Donc on ne peut pas, à mon sens, faire plusieurs inventions. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait très peu. J'ai dû en faire, je ne sais pas quoi, 2 ou 3 inventions. Hein. Plus plein d'autres petites trouvailles, mais qui sont restées à l'état de bricolage chez moi, qui m'amusent beaucoup. Certaines sont très intéressantes, mais que je n'ai pas poussées. Donc, on ne peut pas dire, qu'est-ce que vous faites d'un vie ? Je suis inventeur, j'ai inventé le chausse-pied, le tournevis perpendiculaire, etc. Non, c'est le tire-bouchon à double effet. Ça ne va pas. Ou alors, ceux qui font ça n'en vivent pas. Parce que ce sont de petits objets qui prennent une vie autonome assez rapidement, qui rapporte certainement pas de droit d'auteur, parce que c'est, tout ça est dans la tête de tout le monde. Donc je pense pas qu'on puisse dire je suis inventeur. Bah voilà, dans le ouzou, je suis classé administrateur de société. Voilà. Parce que Géo trouve tout, c'est effectivement pour Mickey, quoi.
Qu'est-ce qui avait de génial dans cette histoire de puce ?
Oh, c'est vraiment génial, la puce. Hein. Moi, je le sais maintenant, je n'ai pas toujours su, mais je comprends peu à peu. C'est la puce que j'ai inventée. Moi, je n'ai pas inventé la puce en général, j'ai inventé une mémoire. J'ai toujours été fasciné par la fonction mémoire, le phénomène des souvenirs. Enfin, je sais pas quoi, le domaine particulier de notre cerveau qui concerne les souvenirs. Et notamment, j'ai été obsédé par l'observation suivante. On ne peut décidément pas ajouter un souvenir à sa mémoire, décider que, par exemple, cette date 1817 que je lis sur ce tableau, je vais m'en souvenir. Je ne peux pas décider. Je peux essayer, mais rien ne me garantit que ça y sera encore dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 2 ans. Donc, on ne peut pas dire que sa volonté est une prise sur sa mémoire. Et, à contrario, on ne peut absolument pas enlever un souvenir de sa mémoire. Mais vraiment pas. Là, on n'a pas un début de piste. Hein, pour engranger quelque chose, on pourrait faire des efforts, se le répéter, se mettre un magnétophone dans son oreiller, ou faire des tas de trucs loufoques comme ça. Bon, alors, les mémoires artificielles, les mémoires électroniques, les cassettes vidéo, les cassettes audio, ou les mémoires à circuit intégré du type de la mienne, eh bien, c'est le contraire. C'est le contraire, enfin depuis donc mon invention, c'est-à-dire que j'ai donné à ces mémoires une petite dose de volonté qui leur permet de faire quelque chose de plus que la fonction mémoire. Normalement, on peut lire ce qu'on veut dans une mémoire, on peut écrire, de même que sur une cassette vidéo, ben, on peut lire n'importe quel petit bout de cassette, on peut effacer, on peut à un endroit précis réécrire quelque chose. Elle est complètement passive. Et ma mémoire, enfin du moins ma puce, hein, est une mémoire active qui se défend irréductiblement et qui, lorsqu'elle ne veut pas quelque chose, par exemple, elle ne veut pas qu'on modifie un enregistrement dedans, elle refusera indéfiniment, et c'est un principe. Donc, effectivement, c'est une espèce de minuscule raccourci d'un certain fonctionnement cérébral, c'est-à-dire, il y a 2 ressources qui se combinent, ressources de stockage d'informations et ressources de volonté sur le stockage, volonté positive ou négative.
Vous l'avez découvert en la découvrant ou vous l'avez découvert d'abord et ensuite vous l'avez cherché ?
Absolument, c'est une très très bonne question. J'ai découvert d'abord et ensuite j'ai cherché. Hein. C'est évident que les idées viennent, on ne sait jamais comment, mais je ne me suis pas dit un beau jour, tiens, je vais essayer de faire une version réduite du cerveau qui aurait telle propriété, de volonté, etc. Pas du tout. Pas du tout, j'ai été vraiment fasciné par un schéma que j'ai fait un soir qui représentait à peu près cela. Tout de suite, quelques idées d'application ont jailli. J'ai eu la chance de rencontrer le lendemain matin quelqu'un qui a pris fait et cause pour cette idée, en disant que c'était l'idée du siècle et que ça allait tout révolutionner. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours, toujours beaucoup de chance. Hein. La formule d'Edison, 99% de transpiration, 1% d'aspiration. Puis il faut rajouter encore comme César et 3 bons quarts de chance. Hein. J'ai eu cette chance, et puis petit à petit, l'idée a pris son envol. Elle s'est, au bout de quelques semaines, elle s'est écroulée parce qu'elle n'avait aucun intérêt. Et là, bon, j'ai subi 10 longues années de difficultés, mais qui m'ont aidé à la comprendre, cette invention, et la voir maintenant, peut-être avec un regard plus général. Et en tout cas, moi, qui m'excite beaucoup. Et j'ai eu la chance, là aussi, d'avoir, à cette époque-là, une autre idée. Qui est sans aucun rapport, c'est une machine à fabriquer des mots. On lui donne des mots maquettes, on lui donne des noms de fleurs, on lui donne des prénoms, on lui donne des noms de départements français ou des noms d'États américains. Et la machine se met à produire, en se répétant beaucoup d'où son nom, le radoteur, elle produit des noms qui ressemblent à tout ça, qui sont donc tous des mots nouveaux, mais qui ont la sonorité de ces mots-là. Et donc j'ai rapidement eu l'idée, là aussi, d'une application dans le domaine des parfums, des créations de marques. Et j'ai pu vivre pendant 3-4 ans en allant vendre des mots ou des listes de mots à des agences de pub, à des fabricants de cosmétiques, et donc pouvoir payer les annuités d'un brevet, puisqu'il faut savoir qu'un brevet, chaque année, si on ne remet pas au pot, hop, il tombe, il appartient à tout le monde, irréversiblement. Donc il faut pouvoir faire bouillir sa propre marmite, élever ses enfants, etc. Donc j'ai eu cette chance. Alors du coup, ça m'a fait perdre un peu de temps, puisque je me suis consacré à cette invention, qui était une invention alimentaire, mais que j'ai jamais regrettée, parce qu'elle est vraiment très 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 poétique. Cet appareil fonctionne encore, il amuse encore les gens, et je compte, pour aller au bout des choses, dès le début 91, mettre plusieurs personnes au travail dessus, pour le transformer, non pas en machine à faire des mots, mais en machine à faire des phrases, et plus particulièrement des scénarios. Alors j'espère beaucoup que cet appareil va être capable d'inventer. Il va inventer dans deux domaines. Dans le domaine général de l'invention, si possible de la vie quotidienne, des ustensiles de cuisine, produits pour voitures, je m'en fous. Grâce à une combinaison complexe de sémiologie et d'utilisation du dictionnaire, et informatique tout ça bien sûr, hein. Et puis, des scénarios. Autrement dit, bourrer la machine non pas avec des mots type des noms de fleurs, mais plutôt avec des résumés de scénarios, j'entends film ou roman, résumés en une phrase courte, genre deux lignes. Et moyennant quoi, il va créer de nouveaux scénarios. Alors là, ça va être très marrant. Ça va être très marrant, ce sera de l'invention de l'IAO, l'invention assistée par ordinateur ou un truc comme ça. Et si le résultat de cette expérience ne débouche que sur de la rigolade, je estimerais avoir atteint complètement mon contrat.
Photoportrait, la galerie des contemporains. Roland Moreno, inventeur de la carte à puce, vient de publier La théorie du bordel ambiant aux éditions Belfond. Production Gérard-Julien Salvi, réalisation Pierrette Perronneau, musique Laurie Anderson.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 janvier 1991 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page d'ennemis sur le site franceculture.fr.
Dans la nuit, comme une étrange étoile, je vais et je viens en attendant le jour. Mais la nuit lève son voile et je traîne en vain dans les rues de l'amour. Et c'est dans Paris, un peu sentimental, que je vis ma vie comme un roman de gare. Quand vient la belle étoile, je vais et je viens, guidé par le hasard. Comme une étrange étoile, je vais, je viens en attendant le jour. Quand la nuit lève son voile, tous mes lendemains ne chantent plus l'amour. Non, 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 il ne chante rien du Paris matinal, car je dors à point fermé pendant le jour. Oh, oh. la nuit, quand vient la belle étoile. Je lis dans ma main les lignes de l'amour. Oh, quel roman d'amour!